Hello! Le podcast Job & Sense revient dans tes oreilles avec un hors-série qui s'appelle Mon Rebond. Mon Rebond, ce sont des témoignages de personnes qui ont repris le chemin du travail après une période d'arrêt maladie. On parlera ensemble de comment ils ont vécu leur période d'incapacité de travail, de qui les a soutenus et de comment ils en sont arrivés à rebondir. Chaque histoire est unique, mais chaque discussion est riche de petites pépites à garder quelle que soit notre propre situation. Tu verras également qu'il n'y a pas une bonne façon de rebondir. La bonne façon de rebondir sera celle que tu choisiras et qui te correspondra. Le hors-série Mon Rebond a été créé pour compléter le salon Rebondir qui a lieu du 17 au 21 octobre 2022. Si tu écoutes cet épisode avant ou pendant la semaine du salon, il est encore temps de nous y rejoindre. Tu verras que parfois le son n'est pas excellent, mais comme on dit, mieux vaut fait que parfait. J'espère que ces épisodes te plairont autant à toi qu'à moi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à les enregistrer. Bonne écoute! Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Victoria.
Comment vas-tu?
Je vais bien, et toi?
Très bien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton parcours de vie aujourd'hui. Je voulais spécifier à la personne qui nous écoute qu'on s'est déjà rencontré avant cette discussion, qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, mais pas souvent, dans un cadre professionnel précédemment. Mais moi, je ne suis pas plus au courant que ça de ton parcours de vie. Et donc, je me réjouis de la discussion d'aujourd'hui. La première chose que je vais te demander, c'est si tu veux bien te présenter en quelques mots, libre à toi de le faire comme tu le sens.
Bon, OK. Donc, moi, je m'appelle Jean-Michel Tessoul, j'ai 53 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants de 22 ans, 20 ans et 7 ans, donc déjà des grands. J'ai une formation académique en sciences économiques, donc un master en sciences économiques que j'ai fait à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. J'ai poursuivi par un diplôme post-universitaire en études européennes. Et ensuite, je suis rentré sur le monde du travail. Et aujourd'hui, j'exerce la profession d'expert comptable et fiscal certifié dans une entreprise que j'ai reprise il y a quelques années.
Et comment est-ce que tu pourrais dire que ta santé va aujourd'hui?
Alors, je souffre d'une maladie qui est une maladie chronique. Donc, c'est une maladie qui peut revenir à tout moment. Et malheureusement, j'ai eu il y a quelques mois de ça une nouvelle poussée de la maladie, ce qui a entraîné une hospitalisation qui a duré un mois et demi, pratiquement, avec des conséquences non négligeable en matière de, notamment de poids, etc., parce que j'avais perdu presque 25 kilos. Mais j'ai changé de traitement. Aujourd'hui, mon traitement ne faisait plus d'effet. Donc aujourd'hui, j'ai un nouveau traitement et je me sens encore bien. Donc physiquement, tout va bien. J'ai repris le sport aussi, parce que je suis resté pratiquement un mois et demi sans rien faire. Et donc, on perd principalement les muscles et pas la graisse, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, j'ai dû me remuscler, etc. Donc, mais aujourd'hui, je vais très bien, et physiquement et moralement. Voilà.
Et tu viens donc gentiment aujourd'hui nous parler de ton rebond. Et c'est pour ça on va remonter en arrière, oui. Là où tout finalement a commencé, parce que c'était déjà il y a quelques temps. Et tu pourrais nous expliquer comment tout a commencé, enfin, qu'est-ce que tu faisais à l'époque et comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là?
Oui, donc j'ai commencé ma carrière dans l'industrie automobile, en fait, dans la même entreprise, dans laquelle j'ai eu différentes fonctions et j'ai évolué à travers le temps et je suis passé vraiment par toutes les fonctions, je dirais, du pôle financier et comptable de l'entreprise, en Belgique et à l'étranger, parce que j'ai commencé ma carrière à l'étranger, pour une entreprise belge. Et quand mon premier problème est survenu, j'étais directeur financier pour le groupe pour lequel je travaillais, qui était un groupe industriel. Voilà, tout est arrivé il y a presque 18 ans maintenant. Donc, je me souviens très, très bien de la date parce que Bastien, qui est mon plus petit, venait de naître. Il avait quelques semaines quand je me suis trouvé totalement en incapacité de bouger, d'aller travailler ou de faire quoi que ce soit, en tout cas.
Voilà, donc, c'était quoi, c'était quoi les symptômes que tu avais à ce moment-là?
J'avais des fortes douleurs au niveau du ventre, des intestins, en tout cas, plus d'appétit, plus de savoir manger quoi que ce soit, des espèces de crampes qui te bloquent complètement et qui sont extrêmement douloureuses. Malheureusement, j'ai une résistance à la douleur qui est supérieure à la moyenne. Ce qui fait que je ne me suis pas rendu compte assez vite de l'état dans lequel je me trouvais. Donc, j'ai continué pendant tout un temps à travailler avec des douleurs, à continuer à vivre comme si de rien n'était, alors que j'avais des douleurs importantes en me disant oh, « ça va partir, ce n'est pas très grave », etc. Comme souvent, on se dit dans ce genre de circonstances, jusqu'au jour où j'ai pu su me lever. Donc, et où je me suis retrouvé effectivement à l'hôpital dans un état catastrophique.
Et tu avais résisté combien de temps comme ça?
Bon, à mon avis, ça a duré 1 à 2 mois avant que je sois en incapacité totale de coucher. Alors, c'est une époque où il y avait plein de choses qui se passaient aussi dans ma vie, puisque c'est la date où mon épouse a accouché du dernier né. Donc, on était quand même fort. On avait le focus sur la naissance, évidemment. On avait deux autres enfants qui étaient là, qui avaient 2 ans et 4 ans, donc il fallait aussi s'en occuper. Donc, finalement, quelque part, il est possible que inconsciemment je me sois dit oui, bon, je peux pas lâcher parce que c'est un moment important dans la vie de la famille. Et donc, j'ai laissé effectivement traîner les choses pendant un petit moment avant de ne plus savoir rien faire concrètement, je ne savais plus bouger. Donc,
Et à ce moment-là, ils ont trouvé rapidement ce que tu avais?
Non, ça a été aussi un parcours du combattant. Donc, la maladie dont je souffre s'appelle la maladie de Crohn. C'est une maladie qui est assez connue aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on connaît quand même pas mal. Mais il y a 18 ans, c'était une maladie qui était fort peu connue et il y avait fort peu de méthodes pour la détecter. Aujourd'hui, sur des simples maladies sanguines, on peut déjà détecter qu'il y a un problème. Et donc, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, quand j'ai été hospitalisé, c'est plutôt les chirurgiens qui se sont occupés de mon cas et pas le gastro-entérologue. Et le chirurgien, après que j'ai eu des médicaments à prendre, antibiotiques et autres, qui pensaient effectivement que c'était une infection, il m'a dit, écoute, voilà, pour que je puisse vraiment voir ce que tu as, il va falloir que je t'ouvre le ventre. Donc, ça fait tes paroles. Bon, les médecins ne sont pas toujours très psychologues et c'est un peu dur à accepter, mais c'est uniquement après m'avoir opéré qu'on a constaté sur base de prélèvements que j'avais la maladie de Crohn. Alors, c'était une opération qui a été très, très longue, parce qu'elle a... Elle a duré 9 ou 10 heures, je pense. Tout ça dans un contexte familial où mon épouse venait d'accoucher. Donc, elle se trimballait à l'hôpital avec le dernier-né. Donc, oui, c'était assez compliqué. Moi, je me souviens pas vraiment de la partie opération et des quelques jours qui ont suivi parce que j'étais trop anesthésié pour ça, quoi. Voilà.
Et la maladie de Crohn, si tu pouvais nous expliquer un peu ce que c'est.
D'abord, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui est en partie génétique. Malheureusement, mon fils aîné a la même maladie que moi. Pas les deux autres, mais mon fils aîné l'a attrapé. Donc, c'est une maladie en fait qui est une maladie inflammatoire du système digestif et une maladie chronique. Donc, ce sont tes organes, principalement tout le système digestif qui s'enflamme par eux-mêmes, comme si tu rejetais tes propres organes. En fait. Et donc, quand tu as une crise, c'est des crampes dans le ventre, ça peut être l'estomac, ça peut être l'œsophage. Moi, c'est plutôt au niveau des intestins que ça se marque, alors que mon fils, c'est l'œsophage et l'estomac. Quand tu as ce qu'on appelle une poussée de la maladie, on te traite souvent à base de produits de cortisone, en fait, pour que l'inflammation disparaisse. Bon, dans mon cas, on m'a aussi enlevé une partie des intestins parce qu'ils étaient trop nécrosés quand j'ai été opéré, parce que malheureusement, j'avais attendu trop longtemps. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une maladie qui se traite bien. Il y a eu beaucoup de recherches et de progrès de la médecine dans le domaine. Mm-hmm. Alors moi, j'ai la chance, ou je ne sais pas, c'est un peu la chance. J'ai une amie qui a fait un doctorat en pharmacie et son doctorat portait justement sur la maladie de Crohn. Ah oui. Donc, j'ai eu pas mal d'informations sur l'évolution des traitements par cette personne. Quand la maladie s'est déclenchée, parce que c'est une maladie qui est là dès la naissance finalement, mais qui se déclenche avec différents facteurs, dont le stress. C'est un des facteurs qui déclenche la maladie. Mais donc, oui, effectivement, le traitement que j'ai eu à l'époque, c'est un traitement à base de médicaments, mais qui sont des médicaments qui en fait réduisent ton immunité. Donc, c'est des immunorécepteurs. Donc, c'était les seuls traitements qui existaient à l'époque, c'était ce fameux immunoréducteur, avec comme inconvénient le fait que, comme ton immunité est réduite, eh bien, tu peux t'attraper plein de saletés à côté. Et donc, j'ai pris cet immunoréducteur pendant 18 ans, pratiquement 17 ans, puisque c'est en janvier de cette année que mon médecin, mon gastro-entérologue, m'a dit: écoute, avec tes analyses, on voit que le médicament fait de moins en moins d'effet. Et donc, il faut changer de traitement. On avait maintenu ce traitement-là parce qu'il fonctionnait bien et qu'on ne souhaitait pas tout remettre en cause. Mais quand on a constaté que le médicament ne faisait plus son effet ou moins son effet, il a été décidé de changer de traitement, avec aujourd'hui des traitements qui sont… Il y a différents types de traitements qui sont moins invasifs d'un point de vue de ta santé, qui sont moins dangereux, moins de effets secondaires, mais qui sont aussi efficaces que le médicament que je prenais à l'époque. Mm-hmm. Et donc, là, ici, ce qui a été assez perturbant, c'est que pour changer de traitement, tu dois respecter tout un protocole médical avec toute une série d'examens. Mm-hmm. Et ces examens étaient tous négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de trace de la maladie dans mon corps au moment où on a fait ces examens. Et tout ça s'est passé courant du mois de janvier. Et mi-février, j'étais à l'hôpital pour une poussée. Donc, c'est une maladie qui est assez sournoise, en fait. Hein.
Oui. Et si on revient un peu encore en arrière, au moment donné où ça a commencé, tu t'étais arrêté longtemps de travailler ?
Oui, pratiquement un an. Et donc, quand on a découvert que j'avais la maladie de Crohn, quand ils m'ont opéré la première fois, ils m'ont coupé un bout d'intestin et ils ont fait ce qu'on appelle, enfin, ils ont mis les intestins au repos. Ça veut dire qu'ils ont connecté les intestins à ma peau avec des poches externes que j'ai gardées pendant 6 mois. Bon, ça, c'est 6 mois de calvaire, hein, parce qu'avoir des poches sur le ventre, c'est pas très agréable. C'est vraiment, on peut pas faire grand-chose. Je suis malgré tout retourné au bureau avec ces poches, parce qu'il fallait continuer un peu à vivre aussi. Mais donc, j'ai 6 mois après ma première hospitalisation, j'ai dû être réopéré pour qu'on reconnecte les intestins. Et donc, de nouveau, après cette opération, tu as une durée assez longue où tu dois rester sans faire grand chose, quoi. Donc oui, je suis pratiquement resté un an sans travailler.
Ouais. Et à ce moment-là, dans ton travail, Donc, tu disais que c'est parfois lié au stress. Donc, du coup, tu avais pas mal de stress. Comment est-ce que tu te sentais par rapport à ton travail pendant ton arrêt?
Alors, oui, j'avais un travail qui était assez stressant. J'avais beaucoup de responsabilités et de pression. J'étais encore relativement jeune à l'époque pour occuper le poste que j'occupais. Je voyageais pas mal aussi, donc j'avais pas mal de. J'avais des missions aussi à l'étranger. Quand je suis tombé malade, je veux dire, les premiers temps, on ne se pose pas trop de questions parce que finalement, le plus important, ça reste quand même ta
La
santé, d'une
santé.
part. Et d'autre part, les douleurs étaient tellement fortes qu'on m'administrait des médicaments qui me shootaient complètement et qui j'étais plus vraiment présent pendant quelques semaines, donc, voire quelques mois. J'avais des médicaments à base de morphine et autres. Voilà, donc j'étais quand même bien un peu sur une autre planète, quoi. Je ne me suis même pas trop rendu compte non plus que j'avais ces poches sur le ventre. Enfin, c'était un peu particulier. Et au niveau du travail, moi, je travaillais directement en collaboration avec le directeur général de l'entreprise, donc le grand patron, qui était aussi l'actionnaire de la société. Donc, c'était une société familiale. Très rapidement, quand je suis tombé malade, mon patron m'a contacté pour me dire que je ne devais pas m'en faire pour mon travail, que j'avais toujours un job chez lui, il n'y avait pas de souci, que je ne devais pas m'inquiéter, que je devais penser à ma santé et prendre le temps nécessaire pour me remettre avant de revenir travailler. Je me souviens encore fort bien parce que bon, c'était au mois de novembre 2004 et donc aux environs de la Noël, etc., j'ai reçu une lettre de mon patron. Dans laquelle il m'exprimait tout son soutien et vraiment quelque chose de très gentil, très agréable, ainsi que des lettres qui m'ont été envoyées par des membres du comité de direction, le directeur commercial. Enfin voilà, j'ai vraiment eu du soutien au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'ai vraiment senti un côté humain, évidemment, à m'aider, à me soutenir. Ils m'ont aussi, en termes financiers, par exemple, maintenu mon salaire. Pendant toute la durée de mon absence du travail, donc une personne un complément à ce qui m'était laissé par la mutuelle, parce qu'à un bout d'un moment, tu
Ah
commences
oui.
à m'inquiéter. Et donc, l'entreprise a comblé la différence. Donc voilà, je dois dire que de ce côté-là, je me suis senti quand même assez bien soutenu et c'était un peu. Je ne me suis pas trop tracassé pour mon travail.
Mais c'est important d'avoir des personnes humaines, comme tu dis,
Oui.
c'est
Tout à fait.
et donc du coup, à un moment donné, tu t'es dit que tu étais prêt à reprendre le travail?
Alors, je suis retourné au travail entre mes deux opérations, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les poches, etc. C'était un peu compliqué, mais je voulais absolument. J'en avais un petit peu assez de rester à la maison parce que je suis quelqu'un d'assez actif. Et donc, rester à la maison et ne rien faire, au bout d'un moment, ça tourne aussi dans la tête et c'est un peu pour devenir fou, quoi, hein, quand on a l'habitude d'être toujours actif. Puis ensuite, quand ma deuxième opération a été réalisée, je suis encore resté un petit moment à la maison. Et puis effectivement, j'ai contacté l'entreprise pour dire que je pouvais recommencer à travailler tout doucement, quoi, voilà. Donc j'ai travaillé en partie, j'ai fait des. Donc, à l'époque, il y a déjà pas mal de temps, j'ai fait un job en part-time et aussi travaillé au départ de la maison. On avait déjà installé des logiciels qui me permettaient de travailler à distance. Donc, voilà.
Donc quand tu as repris le travail, ils ont mis vous avez créé des aménagements pour que tu reprennes petit à
Et,
petit, quoi.
en fait, c'est un peu moi qui ai décidé de mon parcours de réintégration dans le job dans lequel je me trouvais. Si ce n'est que, effectivement, quand tu restes absent pendant une année dans une entreprise et que tu avais un travail qui était fortement opérationnel, parce que j'étais dans l'opération directement, bah, évidemment, l'entreprise, elle ne peut pas laisser les choses en l'état pendant un an. C'est juste pas possible. Il faut quelqu'un pour te remplacer. Et donc, malheureusement, quand je suis revenu au travail, ma fonction avait pratiquement disparu.
Ah oui.
Très vite, j'ai eu une discussion avec mon patron de l'époque, qui était quelqu'un de très humain, parce qu'il m'avait soutenu pendant toute cette année. Et moi, je le connaissais fort bien, puisqu'on travaillait directement l'un avec l'autre. Et je sais que c'est une personne qui était très, très humaine avec tout le monde dans l'entreprise. Et donc, on a très vite eu une conversation dans laquelle il m'a dit, oui, écoute, étant donné la maladie que tu as, qui est une maladie chronique qui peut quelque part revenir à tout moment, c'est très difficile pour moi de te laisser dans un job opérationnel en disant du jour au lendemain que tu peux disparaître pendant des longues durées. Et donc, il m'a proposé effectivement de changer de style de boulot et de travailler toujours directement avec lui, mais plutôt sur des études, sur de la recherche, sur des mises au point, enfin des choses qui étaient beaucoup plus spot et moins opérationnelles que ce que je faisais au départ. Voilà.
Donc, il a pris en compte ta maladie pour adapter une fonction qui pourrait te correspondre.
Voilà, tout à fait.
Et donc ça, tu en étais content?
Non. Non, c'est un peu difficile hein, parce que tu as un job un jour avec une fonction qui est une fonction, quand même, moi j'adorais mon travail. Presque du jour au lendemain, là, tu te retrouves à faire tout à fait autre chose. Tu n'es plus vraiment dans l'opération, alors que moi, j'adorais. On avait des usines, donc on fabriquait. J'adorais aller dans les usines, par exemple, et aider à l'amélioration de la productivité ou des choses comme ça, ou réfléchir sur le fonctionnement du circuit de distribution. Voilà, ce sont des choses très opérationnelles. Donc je me retrouvais dans un rôle un peu caché, un peu. Donc c'est quand même pas évident à accepter. Mm-hmm. Donc au départ, je l'ai bien appris parce que j'ai compris, mais je ne voyais pas vraiment où j'allais par rapport à ça. En fait, je ne voyais pas vraiment ce que j'allais devoir faire, comment est-ce que ça allait être aussi intéressant, est-ce que j'allais être aussi impliqué. Donc c'était quand même assez compliqué pour moi. Ouais. Mm.
Et donc, qu'est-ce que tu as fait à partir de ce moment-là? Tu es resté combien de temps dans cette fonction, finalement?
Pas très longtemps. Donc, en fait, simplement, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que j'ai décidé de changer d'entreprise, de changer peut-être de métier aussi. Et cet élément déclencheur, ça a été en fait une confrontation avec une personne qui avait été engagée pour reprendre une partie de mes fonctions. Mmh. Et qui était nouvelle dans l'entreprise, donc qui ne connaissait rien d'historique, et qui a un peu critiqué tout ce qu'on avait mis en place depuis que j'avais repris la fonction. Donc il faut savoir que l'entreprise était une entreprise à l'époque qui, au niveau des cadres financiers, en tout cas, c'était des personnes d'un certain âge, et donc qui étaient assez éloignées de tout ce qui est outils informatiques et autres. Et donc, quand moi, j'ai pris la fonction, on a informatisé les choses, on a dématérialisé aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de dématérialisation, enfin de travailler sans papier, etc. Donc, on avait mis beaucoup de choses en place, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, et on n'était pas au bout du travail. Mais quand on a mis beaucoup d'énergie dans quelque chose et qu'il y a une personne qui arrive dans l'entreprise, qui ne connaît pas l'historique, qui ne connaît rien, et qui vient critiquer tout ce qui a été fait, je l'ai très, très mal pris. On a eu une discussion très houleuse un jour en fin de journée. Cette personne est venue me trouver dans mon bureau et c'est parti à la confrontation directe. Quand la conversation s'est terminée, j'étais un peu sous le choc. Et en rentrant, je me souviens qu'en rentrant, en prenant la voiture le soir pour rentrer chez moi, j'ai téléphoné à la personne qui avait finalement repris un peu mon travail vraiment de direction financière en lui disant « Écoute, il s'est passé un truc que je ne peux pas accepter et il y a quelque chose qui vient de se casser. » Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était cassé avec l'entreprise par ce comportement-là simplement. Et donc, c'est le jour où j'ai décidé que je n'allais pas rester.
Et ça, c'était donc quelques mois après
quelques 3-4 mois après… Après mon retour, quoi.
Ouais, et donc ça, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et donc après ça, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin, j'ai pris la décision de changer d'entreprise. Alors, mon idée à l'époque, c'était effectivement de retrouver un poste au niveau d'une direction financière dans une grosse PME, je veux dire. Et il y avait un membre de ma famille qui est le frère de mon papa qui était expert comptable. Et je me suis tourné vers lui en disant, écoute, si tu as dans ta clientèle des sociétés qui recherchent un responsable financier, eh bien, je souhaite changer de boulot et même à revoir mes prétentions financières à la baisse, je suis partant pour un nouveau challenge et pour changer, quoi. Et donc, il faut savoir aussi que j'avais depuis toujours, je pense, l'envie à un moment donné de devenir mon propre patron et de monter ma propre entreprise. C'est quelque chose qui était là chez moi depuis longtemps, mais que je n'avais jamais réussi à concrétiser. Donc, voilà, c'est quelque chose qui était un peu en moi. Et il se fait que quelques jours après ma discussion avec mon oncle, il m'a rappelé en me disant, écoute, on a un membre de la fiduciaire qui part, un gestionnaire de dossier qui s'en va. Est-ce que ça t'intéresserait pas de venir travailler à la fiduciaire avec moi? Oui, évidemment, il faudra, si ça t'intéresse, à terme que tu passes ton titre d'expert comptable. Mais est-ce que ça t'intéresse? C'est quelque chose d'autre, hein. C'est pas le même genre de boulot. Mais est-ce que tu veux nous rejoindre? Alors, j'ai pas hésité très longtemps. Donc, voilà. En plus, l'idée aussi, c'était un petit peu mon oncle ayant déjà un certain âge, c'était de pouvoir lui reprendre ses actions et devenir après associé dans la fiduciaire qu'il avait créée avec un autre associé. Donc voilà, ça s'est passé comme ça et j'ai très vite été voir mon patron pour lui exposer le fait que je souhaitais changer de boulot. Je lui ai expliqué un petit peu le pourquoi. Alors, il était de nouveau très très ouvert, très sympathique par rapport à tout ça. Il a très, très bien compris. Et donc, ça a été après assez rapide. Je me suis retrouvé directement dans une nouvelle fonction, quoi.
Et donc, dans ce nouveau milieu, ils étaient aussi au courant de ta maladie chronique. Est-ce que ça, c'était un
Oui,
meilleur
mais
métier pour...
pas vraiment, parce que le stress, il y a aussi, évidemment, dans le métier que j'exerce encore aujourd'hui, il y a quand même pas mal de stress aussi. Ils étaient au courant de ma maladie, mais je veux dire, j'ai un petit peu mis ça de côté et on s'en est pas vraiment préoccupé, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avancer comme ça, progressivement, avec effectivement un objectif qui était l'objectif comment d'avoir le titre d'expert comptable. Donc, j'ai pris un moment de réflexion de nouveau pour voir si le travail m'intéressait vraiment. Ça a duré une bonne année. Et puis après, j'ai commencé les formalités pour m'inscrire au stage à l'institut, quoi.
Et durant tout ce parcours, qui t'a spécialement entouré?
Pas grand monde, à part ma famille, enfin, mon épouse qui a toujours été présente, qui m'a encouragé aussi, qui m'a soutenu, parce que c'était des moments fort compliqués quand même, hein, quand on travaille pendant plus de 10 ans dans une entreprise et qu'on la quitte comme ça. Bon, c'est pas toujours de gaieté de cœur, hein, c'est pas toujours facile. Je me retrouvais dans un nouveau métier, avec des choses que je ne connaissais pas, un nouvel environnement beaucoup plus feutré. Moi, je venais du monde de l'industrie, je me retrouvais dans un bureau où il y avait beaucoup moins de cambouis et de bruit. Un métier un peu plus statique aussi. J'avais l'habitude avant de pas mal voyager. Donc, voilà, j'étais souvent dans les aéroports et dans les gares ou autres. Et ici, je me retrouvais vraiment dans un métier qui était plus statique, même si on se déplace souvent en clientèle, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un métier totalement différent. Donc, il m'a fallu quand même une bonne année pour un peu digérer la chose et voir que le travail me plaisait. Mais finalement, bon, j'ai mon oncle aussi qui m'accompagnait, puisque je travaillais avec lui. Donc j'avais le soutien de mon oncle également par rapport à mon évolution professionnelle, mais c'est surtout dans la famille que j'ai pu trouver le réconfort, quoi.
Mais la famille, c'est important.
Oui.
Déjà, avoir le soutien de son entourage, c'est sûr que c'est très important. Et au niveau donc, de ta maladie, tu nous as parlé donc, d'il y a 18 ans, tu prenais des
oui.
médicaments. Et donc, pendant 18 ans, enfin, depuis, comme tu disais, qu'il y a
oui.
eu, tu as vécu normalement, plus ou moins.
Oui, alors. Bon, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui génère quand même qui a des côtés très négatifs au quotidien. Donc, surtout qu'on m'avait, moi j'ai été opéré, donc on m'avait coupé une partie des intestins, ce qui veut dire aussi au niveau, notamment au niveau du régime alimentaire, il y a des choses que je n'arrivais plus à manger en tout cas. Mais ça, on l'apprend avec le temps, parce que quand tu pars de l'hôpital, après ton opération, on ne t'explique pas tout ça. T'es un peu laissé, enfin, en tout cas à l'époque, on était un peu laissé à soi-même et à se débrouiller, donc j'ai découvert des choses. Une fatigue plus importante aussi, qui me tombait dessus parfois de manière assez soudaine et qui m'obligeait à dormir ou à me reposer vraiment. Et alors, oui, bon, ici, quand on a une grosse poussée, effectivement, ça c'est direction l'hôpital immédiatement. Mais entre-temps, on a aussi un système digestif fragile. Donc, de manière régulière, des crampes dans le ventre, des choses comme ça, ça m'arrivait régulièrement. Donc, j'ai appris à vivre avec la maladie et un peu à l'apprivoiser, quoi. Donc,
À écouter ton corps, quoi.
Voilà, exactement.
Mais au niveau, finalement, du travail, tu n'as pas... Il n'y a plus de moments où tu as été en arrêt maladie pour cause, enfin arrêt maladie longue durée, je veux dire pour cause de la maladie.
Mais non, depuis ma première opération, bah là je suis retourné à l'hôpital il y a quelques mois, mais c'était la première fois depuis 18 ans que j'étais vraiment aussi mal et que j'ai dû, rentrer en clinique. Non, pour le reste, voilà, mon traitement fonctionnait assez bien, mais non, voilà, il faut aussi se soigner et être suivi de manière assez régulière. Donc, c'est des visites régulières chez ton médecin traitant avec des prises de sang, c'est des visites régulières chez ton spécialiste avec une série d'examens. Voilà, régulièrement des examens cliniques plus importants aussi pour voir si tout va bien. Donc, il y a un suivi qui est mis en place, mais j'ai pas eu trop de mal à l'accepter et ça n'a pas perturbé ma vie, en tout cas, de manière fondamentale.
Mmh. Oui, ça t'a pas fait envisager ton travail de manière différente ou ton rapport au travail de manière différente?
Au début, si, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, quand t'es malade comme ça, tu te dis, voilà, il faut que je profite un peu plus de la vie ou que je fasse ce que j'ai envie de faire plus qu'avant, parce que l'engrenage professionnel, c'est un engrenage dans lequel tu tombes et après, t'es coincé un peu dedans. Quand j'ai fait mes études, moi, je voulais faire travailler dans le domaine du développement régional. J'avais eu pas mal d'entretiens à la sortie de l'université pour travailler dans des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, notamment en France. Et finalement, j'ai eu un entretien dans une via un ami à moi, j'ai eu un entretien dans la société et qui m'a engagé pratiquement tout de suite. Et là, je me suis retrouvé dans une espèce de, comment dire, un fil professionnel que je n'avais pas prévu, mais qui m'intéressait parce que je suis parti vivre en France pendant quelques années, donc, puis dans d'autres pays, un peu partout. Par ce biais-là, je me suis retrouvé vraiment dans un canal professionnel duquel j'avais du mal à sortir, mais qui m'intéressait finalement aussi beaucoup. Donc, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais finalement, je me suis retrouvé avec quelque chose de très intéressant. Et c'est un petit peu le même schéma qui s'est passé après, c'est-à-dire que une fois que j'ai quitté mon boulot, ben, je me suis retrouvé à travailler dans une fiduciaire, dans un cabinet comptable, avec plein de nouvelles choses à apprendre. Mais tout en sachant aussi que l'expérience que j'avais acquise dans mon expérience professionnelle précédente était pour la fiduciaire, en tout cas, un plus énorme. Parce que souvent les experts comptables, en tout cas, ou les gens qui font la comptabilité, n'ont pas vécu le monde de l'entreprise de l'intérieur et n'ont pas une vision d'entreprise comme on peut l'avoir quand on a travaillé pour l'entreprise. Donc, j'ai apporté aussi ça à la fiduciaire, quoi, finalement.
C'est ça, donc toutes tes compétences, il y a un fil rouge tout le long finalement.
Exactement, oui.
Et donc, est-ce que maintenant ta deuxième poussée de maladie change quelque chose?
Quand on a un couac de santé comme ça, ça change toujours quelque chose. Donc, comme je suis resté un mois et demi à l'hôpital, il faut savoir aujourd'hui, je suis indépendant, j'ai ma propre entreprise. J'ai 7 ou 8 collaborateurs. Mais bon, quand tu es sur ton lit d'hôpital, si tu penses à ça, tu te dis que tu ne peux pas laisser tomber les bras, tu dois avancer parce que derrière, tu as 7 ou 8 familles qui dépendent un peu de toi et donc tu peux pas te laisser aller finalement. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose aussi, quand tu es comme ça dans un état, enfin, quand tu es à l'hôpital en tout cas, les premières semaines sont toujours plus difficiles parce qu'on a beaucoup cherché pour savoir si c'était la maladie de Crohn ou pas la maladie de Crohn. Je vais passer un petit peu les détails de tout ce qui a été fait, mais j'avais attrapé aussi un virus en même temps dû à mon immunité réduite. Donc, j'avais attrapé le cytomégalovirus, donc j'ai dû être traité pour le cytomégalovirus en même temps. J'ai fait le Covid aussi dans
la foulée.
Voilà, on n'hésite pas, j'ai fait le Covid aussi en même temps. Mais après quelques semaines à l'hôpital, tu commences à retrouver un petit peu plus de forme, je vais dire. Et surtout, comme tu ne fais pas grand-chose de ta journée, tu as ton cerveau qui tourne dans tous les sens. Mm-hmm. Et donc j'ai profité finalement de ce problème de santé pour réfléchir de nouveau sur mon avenir professionnel et sur l'orientation que je souhaitais donner à ma société finalement. Est-ce que je continuais de la même manière? Est-ce que j'allais réduire un peu la voilure? Est-ce que voilà, il y avait plein de questions qui se posaient, mais aussi des questions plus difficiles à aborder, c'est-à-dire voilà, s'il m'arrive un truc aujourd'hui grave, et si je ne m'en sors pas, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui travaillent avec moi et pour ma famille, puisque l'entreprise est quand même le cœur de mon activité aujourd'hui. Donc tout ça entraîne une réflexion sur tous ces différents sujets. Mm-hmm. Et donc finalement aujourd'hui, mon problème de santé, donc c'est poussé une maladie de Crohn. Ça m'a permis de prendre un peu de retrait par rapport à mon activité professionnelle et de réfléchir à mon activité professionnelle aussi. Et donc, finalement, ça permet de construire et de continuer à avancer.
C'est ça, c'est comme un arrêt dans la course folle de la vie, quoi.
Exactement. Tu mets sur pause pendant quelques mois et tu regardes autour de toi, tu te poses des questions, les bonnes questions. Et oui, ça te permet d'avancer aussi.
Oui, c'est ça. Et donc finalement de tout ça, qu'est-ce que tu retires finalement de tout ce que tu as vécu en termes enfin, ton parcours et ta santé?
Finalement, je pense que ça a renforcé mon caractère, donc ma détermination. Et les accidents de la vie, puisque à côté de ça, tu peux aussi avoir d'autres soucis dans ta vie. Hein. Tu peux avoir des problèmes avec tes enfants, tu peux avoir, qui était mon cas aussi, puisque j'ai ma fille qui a fait une tentative de suicide il y a quelques années, si tu as des problèmes de harcèlement. Tout ça te chamboule, mais quand tu passes au-dessus et que tu arrives à trouver des solutions, finalement, ça renforce ton caractère et ça te fait avancer dans la vie. Et donc, il faut toujours bien dire qu'il n'y a jamais rien qui est perdu et que de toute mauvaise chose, tu peux tirer quelque chose de bien finalement, tu peux tirer quelque chose de bon. La maladie, ça te permet aussi de relativiser, c'est-à-dire de te dire qu'il y a des choses plus importantes que le travail et l'argent, qu'il y a d'autres choses plus importantes comme la famille, comme les enfants, les gens qui t'entourent, que tes collaborateurs avec qui tu développes une relation particulière quand tu travailles avec les mêmes personnes depuis quelques années. Voilà, tout ça, ça te fait évoluer de manière assez, je pense, assez positive. Et puis aussi, quand tu fréquentes les hôpitaux comme ça, tu côtoies des gens qui sont parfois dans des états qui sont bien pires que le tien. Et malheureusement, pour lesquels l'issue n'est pas toujours très bonne. Donc, j'ai eu ici à l'hôpital, quand j'ai été hospitalisé là, dernièrement, j'ai eu un monsieur qui était à côté de moi, qui était en soins palliatifs. Et donc, qui avait une maladie dégénérescente des nerfs et du cerveau, je pense. Mais je savais qu'il lui restait que quelques mois à vivre et que quand ce serait trop douloureux, qu'il allait demander pour que ça s'arrête. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec ce monsieur qui était chercheur à l'Université de Liège en mathématiques, qui était aussi un grand sportif, parce qu'il a été arbitre de football en division 1 nationale, donc au plus haut niveau en Belgique. Et malgré ce qui lui arrivait, ce monsieur gardait tout le temps le sourire. Donc on a rigolé ensemble, on a eu vraiment. Mais ça te fait réfléchir par rapport à. Ça remet un peu les pendules à l'heure, quoi. Quand tu vois des choses comme ça et tu te dis, voilà, finalement, ma maladie, c'est pas grand chose, on la gère, elle n'est pas mortelle. Il faut juste apprendre à vivre avec et se soigner. Mais tu ne dois pas prendre une décision d'arrêter de vivre demain. Ça remet un peu les choses à leur place, quoi.
Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui vivent justement avec la maladie de Crohn pour le moment?
Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est déjà une première chose. Il faut apprendre à maîtriser sa maladie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le domaine. Et donc, en termes de médicaments, en termes de traitement de la maladie, il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut se faire aider aussi, donc quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à aller voir les gens qui sont des spécialistes du corps, mais aussi de la tête. Hein, s'entourer aussi parfois de gens qui peuvent te guider dans ton évolution professionnelle. Mais surtout, il faut essayer de vivre ce qu'on a envie de vivre, hein, essayer d'avancer vers ce qu'on a envie de faire. De vivre ses rêves quelque part. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise. Ça fait des années, avant même de commencer l'université, j'avais déjà cette envie de devenir entrepreneur quelque part. Et finalement, c'est ma maladie qui m'a poussé à vraiment mettre ces choses-là en place et à le devenir. Alors, voilà, il ne faut pas perdre espoir, il faut avoir du courage, il faut essayer d'avancer. C'est pas facile tous les jours parce que, en plus de la maladie, on rencontre tous les problèmes qu'on peut rencontrer
dans la vie,
dans la création d'une entreprise. C'est pas toujours rose, hein. On a souvent beaucoup de soucis, mais finalement, c'est quand même un rêve quelque part dans lequel je peux me réaliser aujourd'hui. Mais un rêve qui va demander quand même aussi beaucoup de sacrifices, hein. Parce que pour obtenir le titre d'expert comptable, c'est quand même pas évident. Hein. C'est 3 années de stage, un examen à l'entrée, un examen à la sortie.
Il fallait le vouloir, quoi.
J'avais déjà à l'époque 3 enfants donc, qui étaient en bas âge. Donc, étudier, c'était le soir après les avoir mis au lit. Mm-hmm. Et donc, oui, ça demande beaucoup de volonté, hein, du travail, comme on dit, hein, du sang et des larmes. Mais sans se forcer un peu et sans avoir un peu de caractère, on n'arrive à rien. Donc, il faut essayer de passer au-dessus et d'avancer, quoi.
C'est ça. Mais merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel, de nous avoir partagé ton histoire. Moi, je retiens, oui, comme tu dis, que ça t'a donné une force, cette maladie aussi que tu as vécu, du coup, sans regret. Ça t'a permis de faire certains choix. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé.
Avec plaisir.
J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, Je t'invite à nous le dire et à partager celui-ci autour de toi. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.